Radio Okapi.
Gisèle Cage nous informe.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal d'information de ce jour sur Radio Okapi à la une aujourd'hui. Lubero, 4 centres de passation de l'ENAFEP délocalisés en raison de l'insécurité dans la chefferie des Baswaga, des affrontements entre la coalition FARDC-UPDF et des milices Maïmaï ont perturbé la zone. Malgré ces contextes tendus, la première journée des épreuves s'est déroulée sans incident majeur selon l'administrateur du territoire. Accord de PRDC Rwanda, la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba remet officiellement au président Félix Tshisekedi l'original de l'accord signé à Washington, accompagné d'une correspondance du président Donald Trump. En lien avec l'accord de paix RDC-Rwanda, la Première ministre Judith Suminwa salue une avancée décisive vers la stabilité régionale. Invitée de ce journal, elle décrypte les enjeux de cet accord dans un entretien exclusif réalisé avec les journalistes congolais présents au Japon. Un rendez-vous à ne pas manquer. Nous ouvrons ce journal avec la rencontre tenue ce mardi à Tokyo entre la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et son homologue japonais Shigeru Ishiba dans la capitale nippone. Cette rencontre intervient au lendemain d'une grande cérémonie organisée par le gouvernement japonais pour la commémoration de l'indépendance de la République démocratique du Congo à l'Expo Osaka 2025. Au menu des échanges de deux chefs de gouvernement, le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Lors de cette tête-à-tête, Judith Suminwa était accompagnée du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et des ambassadeurs de deux pays respectifs en poste à Kinshasa et à Tokyo. D'autres détails avec Alain Irong Mouchins, l'envoyé spécial de Radio Okapi à Osaka.
Judith Suminwa Tuluka et Shigeru Ishiba ont abordé plusieurs questions bilatérales, notamment la diplomatie et les investissements, mais aussi comment renouveler un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC Pays Solutions et le Japon, considéré comme pays modèle de développement, de formation et d'intégration. À travers son premier ministre, le Japon se dit prêt à renouveler son appui à la RDC, notamment en matière d'infrastructures, d'écologie, d'énergie et de santé publique. Le premier ministre japonais, quant à lui, n'a pas manqué de féliciter la chef du gouvernement de la RDC pour l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans. L'Empire nippon compte sur son allié historique congolais pour joindre sa voix à la sienne devant les instances internationales. À l'issue de cet entretien entre les deux chefs de gouvernement, le premier ministre japonais a, à travers la première ministre congolaise, lancé une invitation au président Félix-Antoine Tshisekedi pour la participation de la RDC au plus haut niveau à la conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique TICAD. Cette rencontre bipartite entre Judith Suminwa et Shigeru Ishiba met ainsi fin au séjour de la première ministre de la RDC au pays du soleil levant. Depuis Tokyo, Alain Irung Mouchinge, Radio Okapi.
Territoire de Lubero pour parler éducation, de réajustement opérationnel ont été effectués dans le dispositif d'organisation de l'examen national de fin d'études primaires, ENAFEP. 4 centres de passation initialement implantés dans les zones périphériques des Mabambi et Ndeko ont été relocalisés vers les agglomérations de Malembe et Vuinga, situées à environ 100 km du chef lieu du territoire de Lubero. Cette mesure de redéploiement a été prise par l'administration locale en raison du climat sécuritaire dégradé consécutif aux affrontements entre la coalition FARDC, UPDF et des milices Maïmaï. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire, en précise les modalités logistiques au téléphone de Martial Papimoukeba.
Concernant la délocalisation de certains centres, c'est suite à la situation d'insécurité qui se passe aux environs de la colline Muhola à Mabambi. J'étais dans l'obligation de délocaliser certains centres qui devaient recevoir ces élèves. Donc il y avait un centre à Ndeko, il y avait un centre à Katembo, il y avait aussi un centre à Kasiro et il y avait aussi le dernier centre à Vitanda. Alors ces centres ont été délocalisés maintenant, j'avais fait même un message officiel pour l'école primaire Kirao, il y a l'école primaire Swaswanga, et il y a aussi l'école primaire Kaourou, et il y a aussi pour l'école primaire Mwangaza 2. C'était des centres qui ont été retenus maintenant pour que les élèves puissent passer leur examen national de fin d'études primaires. Jusqu'à cette heure-ci, les examens se passent très bien.
Toujours dans le registre éducatif et dans la même région, plus de 45 000 candidats ont entamé ce mardi les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires au sein de la province éducationnelle Nord Kivu 1, couvrant la ville de Goma ainsi que le territoire de Rutshuru et Nyiragongo. Le direction provinciale de l'EPSP en charge des zones de Walikale, Masisi et Nord Kivu 1 ont confirmé le bon déroulement de ces évaluations, précisant qu'aucune localisation des centres n'a été nécessaire cette année. Ce maintien du calendrier scolaire est notamment facilité par une embellie sécuritaire observée dans certaines zones historiquement instables comme Buito dans le Rutshuru. Le directeur provincial Luc Baweza Kabango a exprimé sa reconnaissance envers les parents d'élèves pour leur résilience et leur implication active malgré les défis posés par l'insécurité, ainsi qu'envers l'ensemble de partenaires éducatifs ayant permis la tenue effective des examens dans les zones en crise. Il s'exprimait au micro de Sifa Maguru.
Je puis vous confirmer que l'ENAFEP a bel et bien eu lieu dans la province du Nord Kivu 1, tout comme sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu en général. Nous avons inscrit un total de 45 306 candidats qui sont en train de concourir. Ces 45 306 candidats sont disséminés dans 199 centres de passation. Nous tenons aussi à remercier le gouvernement de la République pour avoir pensé à appuyer, comme ce fut aussi le cas l'année dernière, l'organisation des évaluations. Nous tenons aussi à remercier les parents qui, en dépit de la conjoncture actuelle que traverse la province, y compris tous les partenaires qui nous ont accompagnés, particulièrement les agences du système des Nations Unies, en l'occurrence l'UNICEF, Save the Children, ainsi que OCHA et d'autres partenaires, tant locaux qu'internationaux, qui ont concouru dans l'acheminement des malles d'examen depuis Kinshasa jusqu'à la suite du processus.
Luc Baweza indique que le budget destiné à l'ENAFEP est déjà disponible et assure que tous les prestataires impliqués dans l'organisation de ces épreuves, y compris les superviseurs, seront rémunérés à l'issue de la deuxième journée. Dans les territoires de Beni, la MONUSCO a procédé ce mardi au lancement officiel des travaux de construction de trois nouvelles classes au sein de l'école primaire de Makene, située dans la localité des Kekelibo, à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Beni. La cérémonie des poses de la première pierre a été présidée par l'administrateur assistant du territoire, marquant ainsi les débuts d'un projet infrastructurel attendu depuis plusieurs années. La population locale a exprimé sa reconnaissance face à cet appui récurrent de la MONUSCO au développement communautaire. En service depuis 2005, l'école primaire de Makene fonctionnait jusque-là dans des installations précaires, construite en bois et ne répondant plus aux normes pédagogiques. La directrice de l'établissement, Solange Kavira Katubuke, se félicite de cette avancée significative qui contribuera à améliorer les conditions d'enseignement dans cette zone enclavée. Le point avec Marc Marofimo.
Opérationnelle depuis 2005, l'école primaire de Makene de la localité de Kekelibo fonctionnait dans des bâtiments scolaires vétustes en bois. Grâce à la MONUSCO, les élèves vont étudier dans de bonnes conditions dès la prochaine rentrée scolaire. Solange Kavira Katubuke, directrice de l'école primaire de Makene.
Je dis vraiment merci pour la construction de l'école. C'est depuis 2005 que nous existons à Kekelibo. Nous avons des ONG qui nous appuient à réhabilitation de certaines salles de classe. Mais pour aujourd'hui, vraiment, c'est du spécial à construction à dire une fois dans l'histoire à Makene.
Satisfait lui aussi, l'administrateur assistant du territoire a promis l'accompagnement des autorités locales. Il en a profité pour louer différentes actions de la MONUSCO au profit des populations locales. Le colonel Marcel Caloni.
Ce lieu qui semble être reculé, mais c'est un lieu choisi par notre partenaire. Que les enfants viennent à l'école, qu'ils étudient. S'il n'y a pas de place, nous allons toujours faire plaidoyer à notre partenaire la MONUSCO qui nous viendra toujours à l'aide. À côté de notre bureau, la MONUSCO est en train aussi de construire des bureaux pour 3 services. Donc, chers partenaires, nous vous remercions de tout ce que vous êtes en train de faire et nous, comme autorité, nous allons vous accompagner.
Signalons que ce projet va durer 3 mois. Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Comme indiqué précédemment, de retour de Washington aux États-Unis où elle a signé l'accord de paix au nom de la République, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, accompagnée des experts de la présidence impliqués dans ce processus, a été reçue lundi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République. Cette rencontre de restitution a permis à la chef de la diplomatie congolaise de remettre au chef de l'État l'original de l'accord signé, ainsi qu'une correspondance émanant du président américain Donald Trump. Bien que le contenu de cette lettre n'ait pas été dévoilé, Madame Kayikwamba a évoqué un lien avec un futur sommet de chefs d'État que le président Trump ambitionne de convoquer à Washington dans le prolongement des engagements pris à travers l'accord. On écoute à présent Thérèse Kayikwamba dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Je pense que le Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Et donc, c'était là vraiment l'objet de notre conversation avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de repasser en revue cette journée du 27 juin, mais aussi que de se projeter dans l'avenir et dans l'avenir des priorités stratégiques pour la République démocratique du Congo pour s'assurer que cet accord soit exécuté en bonne et due forme et que nous nous déchargeons de toutes nos obligations, tout comme nous attendons aussi les autres signataires, à savoir du Rwanda, qu'ils honorent aussi leurs engagements.
Concernant les perspectives, la ministre d'État a annoncé que le président de la République, en sa qualité d'architecte principal du processus, mettra en place une équipe dédiée au suivi et à la mise en œuvre de l'accord. La présidence confirme également que la rencontre de haut niveau évoquée par le président Trump se tiendra bel et bien en octobre. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, se félicite de la signature d'un accord de cessation des hostilités intervenues le week-end dernier entre 6 groupes armés locaux, dont la province de l'Ituri. Dans un communiqué officiel publié ce mardi, la MONUSCO salue l'engagement formel de ce faction à œuvrer en faveur de la paix et de la stabilisation dans cette province meurtrie par plusieurs années des conflits armés. La mission onusienne y voit une avancée significative vers la restauration de la sécurité et de la cohésion sociale. Les détails avec René Linti Bonera.
L'accord issu du dialogue d'Aro 2 qui réunit les groupes CODECO, Zaïre Autodéfense, MAPI, FRPI, FPIC et Chiniatuna constitue une avancée majeure sur le chemin de la stabilité en Ituri. Il ouvre une nouvelle page en faveur de la réconciliation, la sécurité et le développement, souligne la MONUSCO. Face aux conséquences des décennies de crises dans cette partie de la RDC, la représentante spéciale adjointe et chef par intérim de la MONUSCO, Viviane Van de Perre, espère que cette dynamique de paix se traduira par des actions concrètes sur le terrain. La MONUSCO félicite les gouvernements congolais, les leaders communautaires, ainsi que tous les partenaires ayant contribué au succès de ces dialogues et réaffirme sa disponibilité à soutenir la mise en œuvre de recommandations issues de cet accord. Elle encourage en outre le groupe armé signataire à intensifier la sensibilisation au sein de leurs rangs afin de garantir le respect scrupuleux des engagements pris à Aru. Cet accord de paix constitue une étape importante concrète à condition qu'il soit mis en œuvre de manière effective et inclusive. Il peut ouvrir la voie à la fin de violence, au retour des déplacés, à un avenir ancré, à la prospérité, conclut le communiqué.
Retour au Nord Kivu, la situation sécuritaire demeure hautement instable. Ce mardi, dans plusieurs localités des territoires de Massissi et de Rutshuru, des foyers des tensions majeures ont été signalés aux alentours de Nyabiondo, dans le Massissi, ainsi que dans le groupement des Bambo et Tongo, dans le Rutshuru. Ces zones ont été le théâtre lundi d'intenses affrontements entre les rebelles du M23 et les forces dites Wazalendo, principalement la PCLS et les collectifs de mouvements pour le changement, CMC, dirigé par Dominique. Une explosion survenue au centre de Niabiondo a coûté la vie à 2 civils et blessé au moins 7 autres, selon des sources locales. Parallèlement, le territoire de Rutshuru continue de se vider de sa population dans les zones de Bambo, Tongo, Kiondo, Bukombo, où des affrontements quasi quotidiens ont provoqué l'incendie de plus de 400 habitations civiles entre le 22 et le 30 juin, selon des témoignages concordants.
Actualité internationale.
Les États-Unis ont suspendu certaines livraisons d'armes à l'Ukraine, notamment des missiles de défense antiaérienne, a confirmé la Maison-Blanche ce mardi en réponse à des informations relayées par la presse. Washington justifie cette décision par des préoccupations liées à la diminution de ses propres stocks de munitions. Cette décision a été prise dans le but de privilégier les intérêts des États-Unis à la suite d'un réexamen mené par le ministère de la Défense sur l'aide militaire accordée à nos partenaires à travers le monde, a déclaré Anna Kelly, porte-parole adjointe de la Maison Blanche.
L'invité.
Notre invitée du jour est la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Elle salue une avancée décisive vers la stabilité régionale à la suite de l'accord de paix signé ce week-end à Washington sous la médiation des États-Unis. Dans un entretien conjoint avec Alain Irung de Radio Okapi, Oscar Mbal de la RTNC et Patrick Bomboka des Zoomeco, elle revient sur les enjeux majeurs de cet accord. Suivez cet échange exclusif.
Je voudrais poser une question, c'est une question d'actualité. Mm-hmm. Vous l'avez mentionné lors du Business Forum. Vous avez salué demain l'accord de paix qui a été signé entre le Rwanda et la RDC. La plupart du temps, beaucoup de questions sont en train d'être des Congolais, même des étrangers, sur les restes des engagements de part et d'autre. Et vous, au niveau du gouvernement, quelles sont les batteries que vous avez mises en place par rapport à la mise en œuvre de cet accord?
D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rappeler peut-être deux ou trois choses. La première est qu'il ne faut pas oublier que ça fait 30 ans que nous subissons les affres de la guerre avec cette agression du Rwanda, souvent qui a été déguisée. Et c'est grâce au chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que aujourd'hui nous avons pu nommément, nous en tant que Congolais, citer l'agresseur. Il y a eu un certain nombre de rapports des Nations Unies qui l'ont démontré, qui l'ont affirmé à travers des preuves concrètes. Mais ce n'était pas évident déjà pour nous en tant que Congolais, malgré ce que nous savions, de citer nommément l'agresseur pour qu'on arrive aujourd'hui à ce processus de paix avec cet accord au niveau de Washington. Vous savez, nous avons eu les accords de Luanda. Nous remercions en tout cas le président angolais parce qu'il a mis du sien pour avoir des avancées jusqu'au jour où, malheureusement, le président Kagame ne s'est pas présenté à Luanda pour pouvoir signer les accords tels que c'était prévu dans le cadre de Luanda. C'était en décembre de l'année dernière. Et après, nous avons vu l'escalade qu'il y a eu à l'Est avec la prise d'abord de Rutshuru, puis de Goma, puis de Bukavu. Donc, vous avez vu l'escalade à partir du moment où on était prêt à avoir un accord et que la personne qui devait signer avec le chef de l'État, Tshisekedi, n'a pas été présente. Aujourd'hui, nous avons enfin, comme le voulait le chef de l'État, un accord avec la facilitation des États-Unis à travers le président Donald Trump. Maintenant, c'est sûr que il est important d'arriver à l'effectivité, donc la mise en œuvre de cet accord, parce que nous avons eu, et cet accord d'ailleurs repose sur ça, notamment cette résolution du Conseil de sécurité, la 2773, qui avait bien indiqué le retrait immédiat des troupes rwandaises sur le territoire congolais, qui avait réaffirmé la nécessité de l'intégrité du territoire national et sa souveraineté. Aujourd'hui, nous avons un accord qui se pose des questions dans cet accord, devrait le lire dans son entièreté. Et je rappelle que dans un accord, que ce soit le préambule, que ce soit les annexes, ils font partie de l'accord.
Madame la Première ministre, vous savez, en ce qui concerne les accords,
en RDC, tout ce qui est accord, ça suscite beaucoup d'émotions et d'effervescence. Que compte faire le gouvernement pour permettre aux Congolais de s'approprier cet accord?
Mais je crois que déjà, les interventions qui ont été faites depuis la signature sont importantes. Notamment, il y a eu cette interview donnée par la ministre d'État aux Affaires étrangères, qui est passée sur la RTNC, je pense. Il y a eu le briefing que Monsieur le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, a eu à faire avec vous aussi, je pense. Il y a cette interview que je fais avec vous aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de bien expliquer le contenu de l'accord. Parce que vous savez, c'est une chose d'avoir cet accord signé, mais c'est une autre chose que le Congolais lambda puisse lire. Cet accord a été publié, mais quand j'entends et que je vois un certain nombre de commentaires, j'ai vraiment l'impression que les gens n'ont pas lu. Et donc, il faut vraiment expliquer, peut-être même expliciter les termes de l'accord pour que le Congolais lambda puisse bien comprendre dans quoi le gouvernement congolais, donc le gouvernement de la République démocratique du Congo, s'est engagé. Et aussi sensibiliser la population.
Excellence, Madame la Première Ministre, nous voulons, au nom de toute l'équipe, vous dire sincèrement merci.
Je vous remercie.
Notre invitée, Judith Suminwa, Première Ministre de la RDC, nous a livré son analyse de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, un accord qu'elle qualifie d'étape cruciale vers la restauration de la stabilité dans la région du Grand Lac. Ce journal touche à sa fin. Sur Radio Okapi, il a été mis en onde par Dieudonné Nyanga, sa coordination de Jean Gandou, à la présentation Gisèle Cage. Merci de votre fidélité. Restez à l'écoute. L'actualité continue sur votre radio. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous.